autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver en direct, chers amis auditeurs libres et curieux. Pour cette nouvelle saison d'interrogations partagées, j'en profite d'ailleurs pour vous remercier de votre fidélité, de votre écoute attentive et si encourageante, qui nous donne envie d'aller toujours plus loin dans la remise en question de nos idées reçues, de nos préjugés et de nos paradoxes, et d'ouvrir nos esprits à tous les possibles. Alors vous allez être servis aujourd'hui, car c'est une nouvelle grille de lecture totalement inédite et quasiment révolutionnaire de notre nature humaine, de nos aspirations et de nos excès, que nous propose notre invité, le neurobiologiste et psychiatre Pierre Vincenzo Piazza, spécialiste des addictions, Grand Prix INSERM, Grand Prix de neurologie de l'Académie des sciences et surtout formidable empêcheur de penser en rond dans un ouvrage qui devrait faire date et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs. Il s'intitule Homo Biologicus. Il paraît cette semaine aux éditions Albin Michel autour de la question « Comment la biologie explique la nature humaine et pourquoi ça change tout ?» Bienvenue. Bonjour Pierre Vincenzo Piazza.
Bonjour.
Je crois que vous préférez qu'on vous appelle Pierre V.
Oui,
Piazza.
Oui, c'est plus simple.
C'est ce que nous allons faire. Merci en tout cas d'être en direct avec nous en cette rentrée pour secouer le cocotier de nos idées reçues, c'est le moins qu'on puisse dire, à la lecture de votre ouvrage Homo Biologicus, dans lequel vous nous ouvrez à une autre perception de nous-mêmes, de notre nature humaine, de nos formidables aspirations et de nos formidables et terribles excès qui font de nous ce que nous sommes, pour le meilleur comme pour le pire. Notre nature est avant tout biologique, dites-vous. Il n'y a aucune raison de séparer le corps de l'esprit. Et le plus fort, c'est que ça ne nous enlève rien. Au contraire, ça nous déculpabilise, car la liberté est dans notre biologie, dans nos gènes même. Allez-vous nous expliquer, dans un instant, notre double nature biologique est contradictoire, recherche à la fois les excès et la sagesse, pas simple, d'être un homo biologicus, un homme biologique, mais le savoir, ça peut nous aider, Pierre V. Piazza. Ça
Je pense que oui. Alors, donc, les premiers points, je pense que il faut dire que cette idée, cette légende, bon, je l'appelle une légende, que l'homme est fait des deux natures, ou une essence immatérielle, qu'on a appelé esprit, âme, selon la culture, mais à la fin, c'est toujours la même chose, et encore, lui, matériel, donc c'est deux choses séparées. C'est une des idées qui ont eu le plus de succès depuis qu'il y a l'histoire des idées que nous entraînons depuis des milliers d'années. Alors, c'est vrai, dans les livres, j'ai dit que nous n'avons pas besoin de cette essence immatérielle pour expliquer ce que nous sommes. Mais il faut se poser la question pourquoi on est resté comme ça pendant des milliers d'années. La raison, c'est que surtout, paradoxalement, la science du XXe siècle nous a donné une idée de la matière qui était très différente de la sensation que nous avions de nous-mêmes. Nous voyons comme des gens capables de tout, nous changeons tout le temps, forgés par des expériences, des fils des dieux uniques, supérieurs, et on nous a proposé, pas avec mauvaise foi, parce que les connaissances c'était celle-là, une biologie déterministe, encore programmée par les gènes que nous héritions de nos parents.
Ouais. Nous disions, nous sommes bien plus que ça, bien plus que nos gènes, on peut pas être que ça.
C'est un peu comme si quelqu'un vous sentait d'être rond et quelqu'un vient vous dire, mais vous êtes carré, vous les regardez, vous dites, non, je suis pas carré, je suis rond. Où je pense que le XXIe siècle, qui a été porteur de plein de choses, a été porteur d'une nouvelle conception de la biologie, où nous sommes rendus compte qu'en fait, on ne s'était pas trompé sur la nature humaine, mais on s'était trompé sur la vision qu'on avait de la biologie.
Et comment c'est la biologie qui est plus vaste que ça et dans laquelle on peut...
Oui, en fait, elle n'est pas... D'abord, elle n'est pas déterministe, mais elle est probabiliste. Elle est forgée par l'environnement. Et aujourd'hui, il permet d'expliquer pas seulement comment nous faisons les choses, mais pourquoi nous les faisons. Pourquoi nous avons construit la civilisation que nous avons construite, pourquoi nous avons des progressistes et conservateurs, pourquoi à plein de choses. Donc, en fait, il ne faut pas dire l'âme ou l'esprit matériel n'existe pas. C'est prétention de dire ça. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on n'a plus besoin d'une essence immatérielle pour nous expliquer. Nous pouvons nous expliquer, nous comprendre qu'avec la biologie.
Et cela ne nous enlève rien. Alors moi, j'ai envie d'essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé là, hein, parce qu'on va développer cette thématique, à penser vraiment hors des sentiers, à ouvrir de nouvelles pistes, notamment alors pour autre chose, qui n'est pas autre chose, qui est la même chose, pour ce qui est du regard porté sur les addictions et la toxicomanie. C'est votre sujet de recherche hein, à l'INSERM, où vous étiez directeur de recherche. Vous avez d'ailleurs, excusez du peu, inventé une nouvelle classe de médicaments pour traiter les addictions sans effet secondaire que vous développez aujourd'hui dans l'entreprise de biotechnologie que vous avez fondée et pour laquelle d'ailleurs en passant vous avez lâché les honneurs, la direction du neurocentre Magendie de l'INSERM à Bordeaux. Précisons également, je l'ai dit, je crois que vous êtes lauréat du Grand Prix de l'INSERM et du Grand Prix de neurologie de l'Académie des sciences pour vos travaux et découvertes sur la psychopathologie des maladies psychiatriques, car avant d'être neurobiologique, de vous intéresser au fonctionnement, au dysfonctionnement du cerveau, aux pathologies de l'addiction, vous êtes médecin psychiatre de formation, et c'est dès le départ, pour mieux comprendre le cerveau, son fonctionnement, donc la nature humaine, que finalement, en tant que psychiatre, vous ne trouviez pas de réponse, pas de médicaments pour vos patients, que vous êtes passé à la neurobiologie, c'est ça ?
Oui, en fait, quand j'ai commencé à pratiquer comme psychiatre, je fais pas longtemps, mais je me suis rendu compte rapidement qu'en fait, il y avait trois maladies et trois médicaments. Trois types de médicaments, qu'on les donnait en fait dans un ordre différent, mais tous les malades psychiatriques avaient à peu près tous les médicaments, mais dans un ordre dispersé. Et donc, j'ai regardé qu'est-ce qui différenciait la psychiatrie des autres sciences médicales. C'était simplement qu'on ne connaissait pas les mécanismes des maladies. Si vous ne connaissez pas les mécanismes des maladies, ben vous ne pouvez pas trouver des médicaments ciblés et qui guérissent sans effet indésirable. Alors, c'était l'époque où la psychanalyse était quand même dominante, la psychiatrie biologique était une minorité. Moi, j'ai un peu fait les deux. Je trouvais qu'il n'y avait pas de raison de ne pas avoir accès à l'homme à travers sa biologie n'enlève rien au fait de pouvoir y avoir accès aussi à la parole en descendant. Moi, j'ai choisi la biologie parce que je pense que c'est la chose à laquelle il y avait plus besoin. Et c'est aussi plus démocratique. Un médicament, on peut le donner à tout le monde sans besoin que la personne soit en capacité de pouvoir
de parler et de payer.
Et voilà. Chose que pas malheureusement avec les psychothérapies. Et donc j'ai commencé juste à étudier les mécanismes des maladies.
Et vous en êtes arrivé à étudier les mécanismes de l'addiction, de la dépendance,
oui.
C'est ça.
Oui.
Et qui est fait partie de ce que vous appelez, enfin vous avez aussi un autre regard là-dessus,
oui.
La recherche du plaisir.
Ouais. Oui, alors l'addiction, c'est, moi je l'appelle, c'est un des cancers psychosociaux de notre société. C'est une des choses sur lesquelles on se trompe de façon générale beaucoup. Donc d'abord, prendre de la drogue, c'est un comportement normal de l'espèce.
C'est un comportement normal de l'espèce humaine que de
oui.
chercher des drogues.
De prendre de la drogue, en fait, altérer l'activité de son cerveau, c'est quelque chose dans laquelle notre espèce excelle et qui prend un temps énorme dans ce que nous faisons. Pensez à des activités comme faire du ski, sauter en parachute, faire du sport, aller danser en discothèque les soirs, s'allonger au soleil pour se faire rôtir. Une de ces activités, c'est prendre de la drogue.
C'est se faire du bien, se faire du plaisir, rechercher
jusqu'à
l'excès,
voilà,
hein, c'est ça.
Ouais. Donc c'est la révolution cognitive en fait, qui nous a fait dissocier les plaisirs de son but. Et donc, notre espèce, il y a 50 000 ans, on a commencé à rechercher le plaisir en soi. Et si vous regardez, l'alcool en France, eh bien, prendre de l'alcool, si ce n'est pas normal, notre société a un problème, parce que ça fait partie même des rites d'initiation, d'être ensemble, tout ça. Donc, après, la toxicomanie, c'est une maladie de ces comportements normaux que c'est prendre de la drogue. Avec des grades de gravité différents, mais c'est une vraie maladie.
Je propose de rentrer dans le vif de ce sujet, donc de cette vraie maladie de toxicomanie d'un côté et de cette normalité pour l'espèce humaine que de chercher des drogues, de rentrer dans le vif donc, de ce sujet troublant, avec un petit extrait d'un de nos youtubeurs de science préférés, Léo Grasset, sur sa chaîne Dirty Biology, qui a convoqué Jeff, le Psylab, pour une vidéo cofinancée par l'INSERM d'ailleurs, qui s'intitule « Le paradoxe des drogues agréables ». Écoutez, ça devrait vous plaire et vous faire réagir.
Alors, Alors voilà. J'étais loin. J'avais bu un truc, j'avais mangé un truc, j'avais aspiré un truc qui changeait complètement le fonctionnement de mon cerveau. J'avais pris une drogue, quoi. Ok, alors peut-être qu'on me l'avait donné à mon insu, peut-être que je m'en souvenais pas. J'ai commencé à chercher dans tous les sens. Bon, ça n'aidait pas trop, et la liste des drogues était vraiment trop longue. Morphine, diazépam, cannabis, chloroforme, protoxyde d'azote, fentanyl, kétiapine, méthylphénidate, héroïne, cocaïne, éphédrine, ecstasy, cotine, muscarine, alcool, salvia divinorum, GHB, psilocybine, kétamine, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un continent épargné par les substances psychoactives. Elles sont partout.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les drogues dont on peut devenir addict, quelle que soit leur structure chimique ou quels que soient leurs effets, perturbent les mêmes régions cérébrales directement ou indirectement. C'est-à-dire, en gros, le système de récompense. De l'ensemble des zones cérébrales impliquées dans la régulation du plaisir. Et c'est pour ça qu'on parle plus trop d'héroïnomanie ou de cocaïnomanie, mais qu'on utilise le terme générique d'addiction, parce que quel que soit le produit, cela touche les mêmes zones cérébrales. Et donc, en fin de compte, c'est le même problème.
Comment réagissez-vous à ce petit son sur le paradoxe des drogues agréables monté par Léo Grasset, Pierre Vipiazza?
Donc là, je trouve qu'il y a ce mélange entre comportement normal et pathologique. Les drogues ont tous des effets agréables, tous différents. Vous ne pouvez pas comparer la nicotine, fumer une cigarette, ou faire un shoot de cocaïne, ou fumer du cannabis. Ce sont tous des effets qui sont très, très différents. Mais elles sont toutes addictives. C'est pour ça qu'on les appelle des drogues. La raison pour laquelle elles sont addictives, c'est parce que là, elles sont en effet commun sous une zone du cerveau et surtout sous un neurotransmetteur qu'on appelle dopamine, et qui n'est pas le neurotransmetteur du plaisir, mais c'est le neurotransmetteur de l'intérêt que nous portons aux choses. Que c'est quelque chose de très... différent. Donc, les plaisirs qu'ils nous donnent les drogues, c'est tout différent, mais leur capacité de donner une addiction, elle est similaire. Donc, c'est ces deux pieds sous lesquels les drogues marchent.
Et ces drogues, enfin l'addiction en général, vous dites que chez l'humain, c'est lié à notre quête de liberté. C'est intrinsèque, vous dites c'est normal, c'est notre espèce humaine qui est fait de ça. De la recherche d'excès et de plaisir, on va y venir, et d'une autre, d'une double nature humaine biologique, qui est pas son inverse, mais la recherche du bonheur, du calme.
Voilà. Donc l'addiction, c'est une maladie, donc ne vient pas forcément de quelque chose de physiologique. La recherche de drogue, elle, en revanche, oui. Donc si vous voulez, en fait, surtout culturellement, on est programmé à penser que l'excès, c'est un truc négatif. En revanche, sans l'excès et sa physiologie, notre espèce, très probablement, ne serait pas là aujourd'hui. Donc l'excès, c'est une fonction physiologique fondamentale que toutes les espèces ont besoin pour survivre. Pourquoi ? Parce que si vous ne pouvez pas faire d'excès, vous ne pouvez pas faire des réserves et vous ne pouvez pas survivre dans des situations où il n'y a pas beaucoup à manger ou c'est rare de rencontrer la nourriture. Donc il faut être capable d'aller au-delà de ce de quoi nous avons besoin pour pouvoir faire des réserves et survivre. C'est pour ça qu'en fait, les plaisirs, c'est les moteurs que la biologie a trouvé pour nous amener vers l'excès.
Donc le plaisir, l'excès, si nous sommes des homo biologicus, pour reprendre le titre de votre livre et autour de la question comment la biologie explique notre nature humaine, on a donc, dans notre nature humaine, l'excès, le plaisir, la recherche de plaisir, ça c'est vraiment une donnée fondamentale pour notre survie biologique. Et on a, c'est ce que vous appelez, une fonction exostatique, voilà. C'est ça. Et on a d'un autre côté, dans notre nature humaine biologique, on n'a plus besoin de l'esprit, de tout ça, une autre tendance qui est celle du bonheur, de la tranquillité, du calme, une aspiration plus spirituelle, même si tout ça est biologique.
Oui, en fait, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que l'époque dans laquelle nous vivons, que c'est l'époque qui nous aide les références, en fait, pour la biologie, n'existe pas. Elle est tellement courte qu'elle est plus courte qu'un claquement de scie. C'est vraiment, ça n'existe pas. Donc, pour comprendre ce que nous sommes, il faut remonter dans une période, il y a quelques millions d'années, ou quelques dizaines de milliers d'années, ou centaines de milliers d'années, où nous étions cueilleurs-chasseurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que nous ne contrôlions pas les réserves alimentaires. Alors, le système idéal, c'est un système qui, s'il y a beaucoup à manger, il vous permet de vous nourrir quand vous avez faim, parce que vu que vous trouvez beaucoup de choses, vous pouvez faire autre chose, surtout se reproduire, mais aussi avoir un système qui vous permet de manger chaque fois que vous voyez la nourriture. S'il n'y a pas beaucoup de proies qui tournent, si vous rencontrez les premiers bisons et vous mangez les premiers bisons, si 2 heures après vous rencontrez les deuxièmes bisons et vous lui dites « Ah non, 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 je te laisse tranquille parce que je suis rassasié et je n'ai pas envie de manger un deuxième bison », si les troisièmes vous les rencontrez après un mois, eh bien, vous êtes mal. Donc, nous avons un système que j'appelle l'endostatique qui, lui, nous donne du plaisir quand nous les ramenons à l'équilibre. Avec quoi nous les ramenons, ce n'est pas important. Donc, c'est ce que nous appelons le bonheur, c'est cette capacité que nous avons à être
joyeux, à se contenter de ce qu'on a, à rechercher l'équilibre.
Être joyeux, avoir du plaisir quand nos corps sont à l'équilibre. OK?
Et ça, c'est fondamental aussi, cet aspect-là.
Ça, c'est fondamental. C'est même les systèmes plus archaïques sont des systèmes qui marchent comme ça. Les premiers systèmes de plaisir, entre guillemets, de jouissance, c'est des systèmes qui marchent comme ça. Mais après, et donc dans ces systèmes, si vous éloignez de l'équilibre, c'est pénible. C'est comme quand vous buvez de l'eau sans avoir soif. Si vous continuez, quand vous avez soif, c'est génial. Et si vous continuez à boire, c'est pas bon, et c'est une torture. Mais pour faire des réserves, il faut pouvoir aller au-delà de l'équilibre. Et donc, comment on fait? Et c'est là où la biologie s'invente ce truc extraordinaire, que c'est les plaisirs.
Les plaisirs,
c'est quelque chose qui est capable de masquer les malheurs qui nous donnent nous éloigner de l'équilibre. Et qu'il nous permet de faire des excès.
Mais ce qui fait que c'est extrêmement compliqué, qu'on est des êtres sacrément torturés. Il faut trouver un équilibre, justement, entre notre envie de plaisir, d'excès, qui nous a permis de vivre, notre envie d'équilibre, de nous contenter de ce qu'on a, entre ce qu'on vous appelait l'endostatique et l'exostatique. Il faut être au milieu.
Disons que presque tout le monde a les deux systèmes. Donc la plus grosse partie de la population peut alterner entre bonheur et plaisir. Après, vous avez des individus qui sont plutôt l'un, plutôt l'autre. Et eux, ils sont quand même rendus la vie de l'espèce humaine facile parce qu'ils nous ont permis de survivre. Mais après la révolution cognitive, ça nous a quand même beaucoup compliqué la vie. Hein. Ils ne nous ont pas forcément fait des cadeaux en nous faisant osciller entre conservatorisme, spiritualisme, que c'est des mouvements qui sont vraiment énergisés par une dimension endostatique, et progressiste et matérialiste, que c'est plutôt des exostatiques. À la fin, tout est plaisir. La raison pour laquelle on ne s'était pas vraiment rendu compte de ça, c'est qu'on pensait qu'on avait un seul type de jouissance, et en revanche, nous avons deux complètement indépendant, et ça change tout.
Ça change tout autour de la question comment la biologie explique notre double nature humaine, notre double forme de plaisir. Vous nous avez même trouvé des musiques qui illustrent notre nature exostatique d'abord, donc consacrée à la recherche du plaisir et des excès, de l'exostasie pure et explosive, signée Chaka Ponk sur RFI au titre sans équivoque Sex Ball. I've got a boyfriend, a kind of superman, the kind of man you got to get to your bed. I've got a girlfriend, the kind of superman, the kind of girl the whole world wanna bang. We are wired, my love is sister. You got me, my love, and don't gotcha. Wanna be a bouncing, bouncing ball. And love, I'm gonna fall like a sex ball.
The kind of man you got to get to.
Sexball, les chacapong sur RFI pour tous les homobiologicus que nous sommes. Je reprends le titre de votre livre. Pierre Piazza, qui avons tendance à rechercher le plaisir et les excès. Là, on est en plein dans cette nature exostatique, dans cette recherche de plaisir qui n'est pas négatif, qui fait partie de notre nature humaine. Hein.
Ah non, c'est d'ailleurs, si vous voulez, notre société, fondamentalement, est, le 21e siècle, est générée par les exostasies.
On est une toujours société, plus, toujours mieux,
ça,
plus
la société
vite.
Occidentale est fondamentalement une société exostatique. Et d'ailleurs, on pourrait se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu calmer l'exostasie, parce qu'elle est en train de générer beaucoup de choses. Parce
une société de dépendance, d'excès, mais, de sur...
Non, mais c'est l'exostasie, c'est quelque chose qui vous amène à chercher des choses toujours nouvelles, parce que les choses nouvelles donnent toujours plus de plaisir, à part regarder derrière, et à modifier le monde pour faire en sorte que vous puissiez en disposer le mieux possible et que votre espèce puisse survivre le mieux possible. Au niveau évolutif, l'exostasie, c'est ce qui nous fait survivre quand les choses vont mal. Donc c'est très important. L'endostasie, c'est le système qui nous fait bien vivre quand les choses vont bien. Parce que l'exostasie, c'est la jouissance qu'on retire du fait de pouvoir mettre notre corps à l'équilibre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les endostasiques sont généralement des conservateurs.
Ça, c'est la recherche de l'équilibre, du bonheur, d'une vie simple. C'est être heureux profondément.
C'est le bonheur, c'est cette sensation, moi, je pense, que nous avons quand notre corps va à l'équilibre. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on le retrouve, si vous regardez, par exemple, les schémas initiatiques catholiques, bouddhistes, tout ça.
Dans toutes les religions, toutes les spiritualités.
En fait, c'est des vademecum, c'est des emplois pour éteindre le système exostatique et allumer les systèmes endostatiques au maximum. Et donc, pourquoi on est conservateur si on est endostatique? Parce que si vous pouvez ramener votre corps à l'équilibre avec des pommes, et vous n'avez jamais vu les poires n'ont aucun intérêt. Parce que ce qui vous intéresse, ce n'est pas les stimuli extérieurs, c'est l'état
ce
de votre corps.
Ce bien-être intérieur. Mmh.
Comment vous les ramenez? Comme vous les ramenez, ce n'est pas grave. Une fois que vous avez trouvé une façon, les autres ne vous intéressent pas. Le plaisir n'est pas un état d'équilibre interne, mais c'est la propriété, c'est les effets que certains stimuli ont sur nous. Le plaisir, c'est quelque chose que des choses spécifiques nous donnent. Et le plaisir, il n'y en a jamais assez. Une fois que vous... C'est la phrase classique. On n'est pas bien ici. Oui, bouge pas. Ça, c'est l'exemple même du bonheur. C'est cet état qu'on ne veut pas toucher.
Et vous dites en tant que biologiste, que neurobiologiste, que notre nature humaine, elle nous pousse vers les deux. Or, on a eu tendance quand même à dire cet état endostatique, de bonheur, qui pousse à ne rien bouger, c'est ce qu'il faut atteindre. C'est-à-dire, le reste nous rend malheureux. Or, vous dites, c'est pas vrai,
non,
on a besoin des deux.
Parce qu'à la première catastrophe, comment on fait? La première épidémie, au premier changement violent, on a besoin d'individus qui sont capables de fonctionner au maximum dans des situations extrêmes et qui sont capables d'aller trouver des nouvelles solutions pour faire avancer notre espèce. Donc, le bonheur, il est statique et l'exostasie, elle est trop dynamique.
Et le
donc,
plaisir
il faut...
est trop dynamique. C'est
Mais
trop
donc, il
statique
faut avoir,
ou trop dynamique
il faut avoir les deux. Et le gros problème de notre société, c'est qu'à la place d'avoir un homme, que c'est un homme complet, qui a une vision binoculaire de la vie et qui raisonne sous les deux jambes, on s'est fait guider depuis des millénaires par des gens qui raisonnent soit avec l'une, soit avec l'autre. Et on alterne entre mouvements qui sont complètement endostasiques ou exhaustatif.
Oui, complètement vers la surconsommation, oui. Le capitalisme, ouais. Le mouvement, le progrès, ouais. Ou complètement vers quelque chose qui ne bouge plus, conservateur, exact. Etc. Et vous expliquez tout ça, Pier Vincenzo Piazza, par la biologie, notre biologie, oui. Avec une idée géniale qui est aussi le bandeau de votre livre, qui est que la liberté, elle est dans nos gènes. La ouais. Liberté de choisir entre l'un et l'autre, on la possède quand même, parce que cette question de la liberté, quand on vous écoute, quand on vous lit, elle arrive tout de suite. Je propose d'ailleurs une question à ce sujet, soulevée par un autre chercheur multicasquette qui a publié Les biais de l'esprit, il s'appelle Jérôme Boutan. Il est économiste, ingénieur spécialisé dans les questions environnementales et chercheur en psychologie évolutionniste. On l'écoute.
C'est un joli sous-titre, j'aurais aimé approfondir avec cet auteur, avoir un peu sa réaction sur l'idée de libre arbitre. Dès lors que l'on dit qu'une partie de nos comportements, notre personnalité, dérive directement de l'expression de nos gènes, pour 50% peut-être, et que 50% proviendrait de l'environnement. Si on reprend, je prends un exemple, celui de Judith Harris dans son livre « Pourquoi nos enfants sont-ils ce qu'ils sont ?» où sa théorie explique que la personnalité des enfants est due à deux facteurs. Un facteur génétique, qu'ont-ils hérité génétiquement de leurs parents, et d'autre part, les personnalités de leur père, c'est-à-dire quels enfants du même âge ont-ils fréquenté. Donc, quel libre arbitre nous reste-t-il alors que certains ont parlé de la dictature du gène?
Comment pouvez-vous répondre, Pierre-Vincenzo Piazza? Quel est notre libre arbitre là-dedans?
Donc, déjà, c'est une vision de la biologie du 20e, mm-hmm. et pas mm-hmm. du 21e.
C'est ça. Hein?
Donc déjà, ce n'est pas 50-50. Ça n'existe plus, ça. En fait,
c'est pas 50% d'inné, 50%
non,
d'acquis, c'est
ça,
pas ça. Hein.
Ça, c'est pas ça. En fait, donc, d'abord, les gènes, ce n'est pas du tout comme on se l'imagine. On voit les gènes comme les 50% que c'est un enregistrement qui se déploie. En fait, la partie que nous on pas, qui contient l'enregistrement, c'est que 3% de votre génome. Les restes, c'est un énorme clavier qui va décider quand et comment ces 3% il est joué. Donc il faut sortir de l'idée de l'enregistrement et aller vers l'instrument musical.
Notre biologie, nos gènes, c'est comme un instrument musical
oui,
où vous êtes aux possibilités complètement illimitées. Donc là, c'est, effectivement, ça change tout.
Oui.
C'est pas réducteur.
Oui.
Et même quand on dit c'est dans notre ADN, ouais. ça veut rien dire.
Oui, oui. Et en plus, d'ailleurs, c'est même des expériences que nous avons faites, la vraie influence qui ont certains patrimoines génétiques, c'est déterminer si la mère va avoir une influence vous ou pas. Mais vont pas tellement déterminer ce que vous êtes à savoir. Cette idée 50-50, elle est dépassée.
Mais ce serait on quoi est... 100% d'inné, 100% d'acquis ?
On est une interaction. Alors, ouais. je vais dire un truc un peu compliqué. Hein.
Allez-y.
Mais après, on est une interaction indissociable entre des gènes et un contexte, à savoir, prenons un gène, les gènes tartampion. Les gènes tartampion ne va pas du tout faire les mêmes choses en fonction des autres gènes qui sont avec lui. Déjà, ça change complètement tout. Donc, en fonction des autres gènes, tartampion va pas avoir une casquette bleue ou rouge, peut même pas avoir les casquettes. Après, une fois que tartampion il est activé, elle produit la protéine, parce qu'en fait, les gènes servent à produire les protéines, que sont ces briques desquelles nous sommes faites. Cette protéine-là ne va pas du tout faire la même chose en fonction d'un certain nombre d'éléments. Un, où elle est exprimée dans la cellule. Deux, dans quelle cellule, de quel organe. Trois, dans quel individu. Et quatre, en fonction des expériences de vie de l'individu. Et donc, en fait, ce que nous sommes n'est pas déterminé. La biologie donne des possibilités de ce que nous pouvons être, et ces possibilités sont tellement énormes que l'avoir comme quelque chose de déterministe, il y a un cadre. On est tous des êtres humains,
mais on est tous complètement complètement différent, complètement imprévisible.
Mais comme notre biologie.
Et c'est notre biologie qui veut ça. Oui. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, vraiment, à la lecture de votre livre, Pierre Vincenzo Piazza, c'est que ça n'est pas du tout réducteur, que vous ne nous réduisez pas à notre biologie. Au contraire, vous ouvrez des espèces de potentiels hallucinants, c'est-à-dire des instruments de musique capables de jouer toutes les notes. Et nous sommes chacun totalement différents avec les mêmes bases.
Après, le libre arbitre, que c'est un mot que je rôle, parce que quand même, le libre arbitre, c'est Saint-Augustin qui l'inventait pour, en faisant une des choses les plus désastreuses pour l'espèce humaine, pour dédouaner Dieu, nous rendre coupables de tous les péchés du monde, parce que c'est comme ça que le libre arbitre l'inventait. Mais si pour libre arbitre, on entend la capacité de choisir, ça, c'est arrivé, et donc choisir au-delà de l'instant, parce que c'est un peu... Ça, c'est arrivé il y a 50 000 ans avec la révolution cognitive, où l'homme est la seule espèce à avoir détaché récompense et acte, a pu conceptualiser les plaisirs, et donc a pu commencer à les rechercher en lui-même. Pas juste, on a du plaisir quand on se reproduit, donc j'essaie de me reproduire. Non, je vais essayer de trouver du plaisir en dansant, parce que si je danse, que ça n'a rien à voir, je peux avoir du plaisir. Et notre capacité cognitive nous permet de choisir. En fait, ce n'est pas tellement le libre arbitre, mais c'est la capacité de choisir. Et nous pouvons choisir parce que nous avons, par rapport à les autres espèces, des capacités de choisir énormes.
Choisir en toute connaissance de cause, donc choisir le plaisir, choisir le bonheur. Et une fois qu'on a compris cette double tendance, je propose de nous arrêter au-delà de nos excès sur donc cette autre tendance biologique à la recherche du bonheur et de la sagesse, avec une chanson que vous nous avez proposée, qui cette fois-ci est purement endostatique. C'est Angèle sur RFI. Tout oublié. Tiens donc, vous nous expliquerez ce choix après l'avoir écouté.
Oui.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois, je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie que t'as perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Si tu voulais, tu le serais. C'est Angèle sur RFI qui le chante. C'est pas compliqué d'être heureux. C'est votre choix, Pierre-Vi Piazza, pour tous les homo biologicus que nous sommes, pour reprendre le titre de votre livre. Nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner. Alors nous aspirons autant, on l'a dit, au plaisir, à l'excès, hein, par le plaisir, et tout ça c'est biologique, qu'au bonheur et à la sagesse. Enfin, c'est un peu compliqué quand même d'y arriver au bonheur et à la sagesse, même si Angèle chante bien.
Angèle écrit très bien. J'ai choisi cette chanson d'abord parce que je trouve que cette fille écrit extrêmement bien, mais surtout parce qu'elle monte bien, même si elle place sous le passé, la voix au bonheur. Elle est basée sur le fait d'éliminer des choses. À savoir, ça on le voit dans tous les parcours initiatiques, il faut se protéger en fait. Le bonheur a besoin de se protéger du plaisir. Parce que le plaisir, c'est une force qui peut annihiler le bonheur. Donc la voie pour le bonheur, c'est mettre tous les plaisirs exostatiques, donc tout l'attrait que le monde extérieur a sur nous, en surligne. C'est pas pour des raisons morales, c'est juste parce que le bonheur, les systèmes biologiques qui sont à la base du bonheur ne peuvent rien contre les systèmes biologiques qui sont à la base du plaisir, alors que le plaisir, il est inventé pour nous permettre de s'éloigner du bonheur. Donc il est capable de l'annihiler. Donc elle dit que pour arriver au bonheur, il faut tout oublier. Et quelque part, pour arriver au bonheur, il faut enlever toutes les choses qui peuvent nous donner du plaisir.
Mais alors comment on fait, Pierre Vipiazza, comment on fait aujourd'hui dans un monde que vous dites, qui est évidemment beaucoup plus exostatique, donc qui nous tourne vers l'excès, le plaisir, enfin qui nous encourage dans ce sens-là, qui nous a autrefois plutôt encouragé du côté spirituel, religieux, ouais, à être plus endostatique, mais comment on fait nous, hommes et femmes biologiques, avec ces deux aspirations? Comment vous faites-vous? Comment je fais moi? Je alors, me sens très contradictoire entre effectivement l'excès, le plaisir, la nouveauté, et puis la sagesse, l'équilibre intérieur, et me suffire à moi-même. Alors, quel bonheur!
Voilà. Donc, je pense qu'un des seuls avantages d'un être humain biologique, c'est que la matière peut être connue, et en revanche, l'esprit, par définition, on lui a fait dire tout et son contraire depuis des millénaires, ne peut pas l'être, par définition. Et donc, les moments où nous réalisons que nous avons les deux, peut-être la voie, c'est justement d'abord l'arrêter de se sentir coupable d'être d'une façon ou de l'autre, accepter le bonheur comme quelque chose qui est parfait dans des situations de stabilité, et les plaisirs, quelque chose auquel on doit être quand même extrêmement reconnaissant. C'est pas le diable, c'est lui qui nous a fait survivre dans des périodes difficiles et qui encore aujourd'hui nous est très utile et nous amène loin. Donc je pense que l'idée, c'est de se rendre compte que peut-être la culture que nous avons aujourd'hui, elle est portée par deux biologies extrémistes qui sont présents chez certains individus. Ces gens-là ont été très utiles pendant notre évolution, mais qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être passer à autre chose, et on pourrait passer à cet homme que j'appelle moi interstaticus, que c'est l'homme du milieu. Vous savez, il y a un truc fantastique. Si vous n'êtes pas à gauche, à droite, conservateur ou progressiste, vous n'êtes rien. Et il y a un milieu où il n'y a rien, où il n'y a très peu de production culturelle, il y a une espèce de désert, et peut-être c'est là où il faut regarder pour trouver l'équilibre, ce que vous appelez la sagesse. La sagesse n'est pas dans le bonheur, et l'excès n'est pas dans les plaisirs. La sagesse, c'est par l'acceptation et la cohabitation de ce que nous sommes les deux.
Nous sommes les deux, nous sommes des homo biologicus, la liberté est dans nos gènes, oui, dites-vous, autour de la question comment justement la biologie peut expliquer notre nature humaine. On a bien compris qu'il fallait essayer de trouver un équilibre entre nos excès et nos aspirations, ouais, disons, nous adapter aussi à une époque qui a complètement changé, bien plus vite, ouais, que notre propre biologie. C'est le point de vue d'un autre chercheur assez iconoclaste aussi, le biologiste de l'évolution Frédéric Thomas. Il est co-directeur du Centre de recherche écologique et évolutive sur le cancer. Il était récemment notre invité et comme vous, il s'intéresse vraiment à la biologie pour avoir une autre approche de notre humanité, mais aussi de nos maladies et de nos pathologies et de nos fonctionnements et de nos dysfonctionnements. On l'écoute.
Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse-là. En fait, on est le résultat, là encore, de notre évolution dans un monde qui a profondément changé. Et nous sommes aujourd'hui à une espèce de mélange entre une forme moderne avec encore des adaptations d'une autre époque et même des reliquats. Si on prend, par exemple, notre goût prononcé pour le sucre, c'est vraiment quelque chose d'ancestral que l'on a recherché donc pendant quasiment toute notre histoire, à une époque où la disponibilité était saisonnière. Et aujourd'hui, la disponibilité a complètement changé.
Et on continue, j'ai envie de dire, bêtement, parce que nous sommes dans ce piège darwinien, à en consommer avec tous les problèmes de santé que ça génère, parfois même exploité par les industriels pour nous faire acheter encore plus. Et donc voilà, donc l'être humain est intéressant au sens où il est à la fois moderne, mais à la fois complètement ancestral aussi, dans un monde qui a profondément changé. Et c'est à la lumière de toutes ces informations qu'il faut essayer de comprendre qui nous sommes. Donc effectivement, je pense que cet éclairage-là est de nature à faire changer dans le bon sens les mentalités.
Vous êtes d'accord, j'imagine, avec Frédéric Thomas, Pierre Vipiazza?
Oui.
Vous consacrez d'ailleurs un chapitre, alors pas à la question seulement du sucre, mais à l'obésité.
Oui. Donc l'obésité, parce que j'essaie de parler de deux maladies de l'excès, hein, c'est l'obésité et l'autre, l'addiction. L'obésité, c'est une maladie où tout fonctionne bien et rien ne va plus, parce que ce n'est pas une vraie maladie. Alors, quelque chose que c'est qu'il faut voir, c'est que en physiologie, le fonctionnement de votre corps, des fois, on y pense dans l'absolu. En revanche, la normalité biologique n'est pas dans un absolu, c'est par rapport à un contexte. Mm-hmm. Prenons vos poumons, c'est un organe, surtout le vôtre, fantastique. Ça a la surface d'un terrain de tennis, ça marche, mais c'est extraordinaire ce qu'ils font. Donc on peut dire que c'est la perfection de ce qu'on peut faire. Sauf si je vous prends la tête et je vous la mets sous l'eau. Là, du coup, ça ne marche plus du tout.
Nos poumons, non, ils ne marchent plus du tout. C'est plus du tout un organe fantastique.
Voilà, et vous mourrez alors que les petits poissons rouges qui passent devant vous, ils vous regardent et disent « Mais pourquoi ils n'arrivent pas à respirer sous l'eau ?»
Et alors que nos poumons fonctionnent parfaitement. Parfaitement. Okay.
Donc, en fait, un organe fonctionne par rapport à un contexte. Donc, les systèmes exostatiques s'est développé pour nous faire manger quand il y avait peu à manger. Dans la situation actuelle, et c'est là où je dis que ce n'est pas des reliquats, c'est ce que nous sommes, parce qu'encore une fois, l'ère moderne, au niveau du temps biologique, c'est quelque chose qui n'est même pas venu encore. C'est ça qu'il faut comprendre. La biologie a un temps qui est beaucoup plus lent que les temps que nous percevons.
Ça se compte en centaines
des millions d'années.
Centaines pour une évolution biologique. Hein.
Pour changer, par exemple, s'il faudrait renoncer à l'exostatique, au gène exostatique, il faudrait peut-être quelques centaines de milliers d'années. Donc ça n'existe pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous mettons ce système-là, qui fait manger chaque fois qu'il voit de la nourriture, dans un contexte qui, pour lui, il est absolument incontrôlable. À cause de l'abondance,
il y en a partout, tout le temps, la nourriture
partout,
et tout ce qu'on veut.
Promenez-vous en centre-ville, il y a
c'est terrible, on peut manger tout le temps.
Dans votre frigo et tout ça. Et deux, à cause du fait que quand même l'industrie agroalimentaire a rendu de façon très savante la nourriture de façon absolument irrésistible pour notre système. Addictive, irrésistible. Ce n'est pas une vraie addiction. C'est
d'accord.
Juste, c'est un système que lui, normalement, mange toute fois qu'il y a une nourriture. Et plus elle est appétissante, plus il mange.
Sucré et gras, et plus on mange. Voilà. Et salé.
Et qu'est-ce qui rend la nourriture appétissante? Les sels, les sucres et les gras.
Tout ce qui est mauvais pour
nous. Rajoutés, mais en fait, c'est mauvais pas tellement à cause des calories. C'est mauvais parce que leur présence nous fait manger beaucoup plus en quantité que s'ils n'étaient pas là. Ce n'est pas juste au niveau des calories. Mm-hmm. Okay? Donc, par exemple, un truc surprenant, c'est que grossir, ce n'est pas un accident, ce n'est pas l'accumulation. Mais je dis, ce n'est pas comme on met des billes dans une poche, ça tombe comme ça, fur et à mesure, ça s'accumule. Non, c'est une des fonctions physiologiques les plus élaborées, à savoir, votre organisme peut se mettre en condition de vous faire grossir le plus possible. Parce que grossir, c'était super utile dans des situations où il n'y avait pas beaucoup à manger. Donc, tout ce que j'ai fait dans les livres, par exemple, c'est d'essayer d'imaginer un régime qui parle au système exostatique, parce que tous les régimes qui existent aujourd'hui, c'est des régimes qui, en fait, ils sont conçus pour des gens qui n'ont pas besoin. Parce qu'ils sont
tous parce qu'ils savent s'auto-réguler, finalement.
Parce qu'ils sont conçus par des endostatiques pour eux-mêmes. Les vrais endostatiques n'arrivent pas à comprendre exactement comme
en fait, ce que vous faites dans ce régime-là, que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt, c'est que vous montrez qu'au fond, il faut arrêter ce système du plaisir. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est ça qui nous fait manger, c'est ce plaisir-là. Bien mais ça ne veut pas dire se rendre malade, ni se rendre malheureux. Mais ça veut dire arrêter d'être excité par plus de nourriture.
Ça va. Ce que j'essaie de décrire, c'est toutes les choses qu'on sait qu'il faut aller à Saint-Laure, le système exostatique, pas éliminer les plaisirs, mais éliminer les côtés artificiels rajoutés à la nourriture. Qu'il fait en sorte qu'on utilise en fait les plaisirs, pas pour juste nous donner du plaisir à manger, mais pour augmenter de façon savante ce qu'on mange. Et on a construit des industries entières, mais depuis maintenant des milliers d'années, qui sont hyper spécialisé à faire ça.
Merci infiniment d'être venu nous expliquer tout ça. On pourrait passer des heures avec vous. Un petit mot simplement sur vos recherches actuelles. Vous développez des médicaments extrêmement précis, sans aucun effet secondaire, pour traiter une dépendance au cannabis, pour véritablement ne cibler que ça dans le cerveau, c'est ça ? Un petit mot.
Donc oui, c'est, en fait, c'est une famille de médicaments qu'on a découvert toujours de façon un peu décalée. En fait, c'est sont copiés sous un mécanisme qu'on a découvert qui a le cerveau de se défendre contre une activation trop forte de certains de ces systèmes. Donc, ils peuvent servir à deux choses pour lesquelles on en développe. Deux, un, c'est la toxicomanie au cannabis, parce que les cannabis donnent bien de l'addiction. Ça va être un gros problème dans le futur. Et pour certains déficits cognitifs. Parce que, comme vous savez, quand vous fumez du cannabis, un des problèmes, c'est le déficit cognitif. Donc, il y a des situations où le système interne s'est déréglé et ça donne des déficits cognitifs. Donc, on les développe. Et ils n'ont pas d'effet indésirable, pour l'instant.
Je crois pas d'effet indésirable et aucune moralité aux questions de morale là-dessus. Merci infiniment d'être venu en direct, Pierre Vincenzo Piazza, nous faire partager cette nouvelle explication biologique de notre nature humaine. C'est fascinant.
C'était un plaisir.
Je ne saurais trop conseiller la lecture de votre ouvrage révolutionnaire très inspirant, Homo Biologicus, comment la biologie explique la nature humaine, qui est paru cette semaine aux éditions Albin Michel et dont je vous rappelle, chers amis auditeurs, que nous avons un exemplaire et un seul à vous faire gagner si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Mais c'est aussi une nouveauté de cette rentrée sur Spotify. On n'arrête pas le progrès, ni la diffusion et le partage des connaissances. Au plaisir de vous retrouver demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Autour de la question, comment voir moins flou le récit d'une quête astronomique, celle du physicien Pierre Léna, formidable chercheur humaniste et engagé, qui sera en direct avec nous, c'est assez précieux pour être signalé. Merci de votre curiosité, chers amis auditeurs. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.